Bravo.
Ouais, moi oui.
C'est encore rouge.
J'enchaîne tout de suite là parce que c'est déjà.
On vit d'un café. On en touille un autre. Le temps passe, de cafetière en cafetière. Marin affamé.
Vous vous rendez compte que votre plateau est toujours surreprésenté par la gauche.
On veut bien être gentil, mais pas con.
La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques rouges.
Capitalisme, pas ne
jouez pas au con avec
nous. On est trop gentil.
La rouge, c'est la couleur du sang, la rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence.
On est gentil, hein, on est toujours gentil.
C'est capitalisme, n'est pas
rouge, je veux dire, arrête-toi.
Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin. Le vin qui dit vin, dit pot de vin. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico. Tu vois, c'est des histoires de fric.
Je vote pas pour les capitalistes, hein.
Bon, je suis ouvrier.
On est trop gentil.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6 en DAB+, et Patricia, elle se lâche, elle en peut plus, c'est vrai. Merci en tout cas pour cette fin d'émission, c'était extrêmement beau.
Même toute l'émission précédente.
C'est de la radio.
Alors nous, ça va être beau aussi, mais un peu moins harmonique,
voilà.
Un peu moins harmonieux, un peu plus rouge, un peu plus, hein, on rentre dans le Larn.
Voilà, moins poétique peut-être.
On passe au rouge jusque 20h, une émission réalisée par toi, Seb.
Une émission que tu animes, gros dada.
Bien sûr, en compagnie eh bien, de Jean-Jacques qui recevra.
Salut.
Salut, qui recevra tout à l'heure Frédéric de Martelard, adjudant chef à la caserne de pompiers Bouvines.
Bon,
à Lille, et on parlera des pompiers tout à l'heure.
Oui, on le reçoit par téléphone.
Hein. Oui,
D'ailleurs, à ce propos, on voudrait faire un appel à la population parce que, comme il est d'astreinte, monsieur de Martelard, hein, l'adjudant chef.
Vous n'appelez pas.
Alors, si vous êtes sur Lille et en vrai, à proximité.
Appelez le 15.
Retardez le moment où vous souhaitez foutre le feu à une bagnole, à votre maison, je ne sais pas, mais attendez, 19h30, 19h45, ça nous arrangerait.
Absolument.
Sinon, ça foutrait en l'air notre interview.
N'ayez pas besoin des pompiers rapidement.
Et c'est Massy que vous entendez.
Salut.
Massy, tu es venu avec Flavien.
Bonsoir.
Et ta chronique.
Exactement.
Oh, c'est un peu.
C'était
un. Et donc, tout à l'heure, sur quoi est ta chronique tout à l'heure?
Je dois faire donc un teasing. Donc, j'ai décidé de faire des teasings en trois mots.
C'est quoi un teasing?
Donc, aujourd'hui, ma chronique va traiter d'Israël, de Marine Le Pen et de chats. Vous comprendrez le lien entre ces. Vous comprendrez le lien tout à l'heure.
Je suis complètement teasé.
C'est comme ça.
Bah, si t'es teasé, alors.
Mais entre temps, alors bien sûr, Frédéric de Martelard tout à l'heure à 19h30 et des brouettes. Mais on croisera aussi Jean-Louis Bouzin en manif, c'est l'ancien rédacteur en chef de Liberté Hebdo. On croisera un médaillé du travail qui manifestait pendant la première retraite au flambeau de Lille. On retrouvera l'intersyndicale le 9 janvier dernier devant la gare Lille-Flandre pour un énorme barbecue militant merguez et lutte des classes.
Presque un mois, mais ça valait le coup.
Oui, mais ça valait le coup.
Il y en a eu d'autres depuis.
Mais avant, et comme tous les lundis, on retrouve Jérôme Leroy et son talon de fer, une chronique à relire dans Liberté Hebdo, bien sûr.
Macron, où est ta victoire? Il apparaît de plus en plus manifeste que Macron fait vivre la France dans un état de crise sociale permanente. Le candidat qui avait été élu comme un homme nouveau qui allait moderniser le pays se retrouve littéralement en état de siège. Après les Gilets jaunes, la grève contre la réforme des retraites. Et après cette grève dans sa forme aiguë, la persistance du refus dans une guérilla à bas bruit. Macron n'a rien lâché, mais en face non plus on ne lâche rien. Il veut aller au théâtre, il faut l'exfiltrer. Il reçoit les grands patrons à Versailles, il y a un comité d'accueil. Il a un syndicat à sa botte, la CFDT, dont les économistes Jean Pisani-Ferry et Philippe Aguillon sont des anciens conseillers à lui. Et ce syndicat est lâché par sa base et voit ses locaux vandalisés. On ne compte plus les ministres ou les présidents d'université qui annulent leur cérémonie de vœux. Ici, Blanquer est hué en visite au rectorat de Caen. Là, Marlène Schiappa est obligée de quitter le bistrot parisien où elle tenait une réunion électorale. Quand ce n'est pas un port bloqué, c'est une raffinerie. Quand ce n'est pas une raffinerie, c'est un tribunal. Quand ce n'est pas un tribunal, c'est un lycée. Quand ce n'est pas un lycée, c'est un hôpital. Et quand ce n'est pas un hôpital, c'est à nouveau un dépôt de la RATP. Des coupures d'électricité se multiplient, on y répond par des poursuites judiciaires des syndicalistes et on a la surprise de voir s'opposer à cette répression une députée LREM, et oui, Yaël Braun-Pivet, président de la commission des lois, qui déclare « Je ne crois pas qu'il faille les poursuivre, on ne peut pas ne pas entendre et faire la sourde oreille aux revendications de cette partie de la population. Il faut faire avec, parce que c'est l'état de la contestation. » C'est dire à quel point, au sein même de la majorité, il y a des doutes à l'heure où Griveaux, candidat macroniste à la mairie de Paris, ne cesse de baisser dans les sondages malgré des ralliements aussi opportunistes qu'inefficaces. Puisqu'on parle de sondages, on a beau les tordre dans tous les sens, on en est toujours à plus de 60% des Français qui veulent le retrait de la réforme. C'est peu de dire qu'il ne reste entre Macron et la rue que les forces de police transformées en gardes prétoriennes. Le changement de doctrine du maintien de l'ordre, ordonné par le pouvoir le 8 décembre 2018 contre les Gilets jaunes, a multiplié les violences policières sur les manifestants. Des violences qui commencent à inquiéter jusqu'à Castaner lui-même, véritable âne de Buridan de la place Beauvau, qui oscille entre la condamnation d'actes inacceptables et la peur de vexer sa police, une police qui n'arrive pas à souffler depuis plus de 2 ans et visiblement perd pied. On en arrive à des situations ubuesques qui feraient rire si elles n'étaient pas indignes d'une démocratie. Un manifestant en sang continue d'être frappé à terre et ce sont des policiers qui portent plainte à cause d'une supposée séropositivité. Et ne parlons pas de la mort par écrasement du larynx d'un livreur, Cédric Chouviat, début janvier, lors d'une interpellation. Ce à quoi nous assistons, c'est ce qu'on appelle un conflit asymétrique. On peut toujours faire mine d'avoir écouté les gilets jaunes et de leur avoir lâché quelques milliards, ils sont encore là. On peut toujours décréter que le mouvement social contre la réforme des retraites est terminé, parce que Laurent Berger a applaudi dans une grande solitude ridicule au faux retrait de l'âge pivot et que les trains roulent à nouveau, parce que les grévistes sont épuisés financièrement. La guerre d'usure continue. Et elle va continuer. Protéiforme, sporadique, violente. Les Français sont comme ça. Ils ne veulent pas être mis aux normes d'une mondialisation libérale comme on met aux normes une maison qu'on veut vendre. Il serait plus que temps que Macron comprenne son péché originel, qui est aussi un péché d'orgueil. Il n'a pas été élu en 2017 pour son programme, mais il a été élu contre Marine Le Pen et seulement contre elle.
On passe au rouge. Retrouvez-nous pendant 2 mois sur campuslille.com. La guerre de classe continue sur Radio Campus et on passe au rouge. Et là, on reparle au 9 janvier dernier, devant la gare Lille-Flandre, où il y avait un barbecue avec l'intersyndicale et des représentants de plusieurs corps de métiers. Je rappelle, c'était le 9 janvier. Depuis, les grévistes ne sont plus à 30 jours de grève, mais bien à plus de 50 jours de grève. Et voilà, c'est très important de le dire.
Il y a quelqu'un qu'on entend dans ce reportage.
Oh oui, vous verrez peut-être.
Que tu as monté, gros dada.
Si,
c'est toi, Massilia, qui
était.
Tu représentais quelle organisation, Massilia ?
Alors, je représentais les Jeunesses communistes du Nord.
Ah, ok. C'est une belle chronique, en tout cas.
Une glorieuse.
Ça, c'est du journalisme objectif où je m'y connais pas.
Moi, on m'a demandé d'en parler, j'en parle.
Elle bouffe à tous les râteliers.
On est comme ça, nous.
Il est 12h20, on est devant la gare Lille-Flandre ce jeudi 9 janvier et il y a plusieurs centaines de cheminots et de soutiens qui sont réunis pour un cocktail dilatoire à base de saucisses et de bière.
Des pompiers, des enseignants, les étudiants. Ali pour le comité de grève. Je vais intervenir au nom de l'intersyndicale vue avec Sudrail et l'UNSA. Aujourd'hui, mes camarades, nous sommes au 36e jour de grève. Il n'y a pas que les cheminots sur cette place. Nous avons les copains.
Je suis à découvert en 1400, j'ai une paye de 1600. Comment je finis ? J'en ai rien à foutre, je sais pour qui je me bats pour mon fils.
Le personnel technique.
Moi j'ai la chance, c'est que j'ai une femme qui travaille. Donc on aura un salaire et puis on va faire avec.
Pareil, démerdé.
Les camarades touchants, mais aussi dans la région, nous avons comme action forte et puissante l'arrêt de la centrale de Gravelines.
Quand tu pars sur un conflit comme ça, alors la barrière, elle est simple, c'est qu'il y a un moment où tu bascules. Tu vas 2-3 jours de grève, t'es là, tu dis bon, 2-3 jours de grève, 4-5, tu comptes, t'es là, tu dis ça va me coûter tant, je vais faire. Puis après, tu bascules. Après, tu bascules, et là, dans ta tête, tu dis bon, allez, c'est fermé. Et j'ai pas perdu 5-6 jours, et maintenant, bon, je vais à fond. Et puis, comme il dit Sylvain, tu mettras 6 mois, un an par temps. Ouais, tu vas mettre
62 écoles fermées dans le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, un mouvement fort, et demain, Macron, nous serons encore là. Ta réforme, tu la retires.
Bah moi, ça fait un mot, je suis en grève.
Bah là, on est depuis le 5 décembre. Pas de salaire le mois prochain.
Et quand ça a commencé, vous vous doutiez que ça durerait au moins un mois?
Non.
On savait que ça allait être long.
On savait que ça allait être long, mais on pensait que la convergence des luttes, ça serait nous à Sudrail, on pensait que les cheminots, la convergence des luttes, ça serait un peu plus rapidement. On s'aperçoit qu'il y en a qui sont en grève depuis le début, mais.
Bah, voilà, c'est seulement maintenant que la convergence, on a l'impression qu'elle commence à prendre. Donc nous, ça fait un mois qu'on y est, donc forcément.
Quand on dit qu'on défend nos régimes spéciaux, on ne défend pas nos régimes spéciaux. Ce qu'on voudrait, c'est qu'en fin de compte, les retraites soient tirées vers le haut, pas vers le bas. Quand on dit que les gens ont de la pénibilité, moi j'en ai de la pénibilité, mais ça me dérange pas que le conducteur de train chez Véfeli ou dans le privé, il a la même retraite que moi. C'est la différence avec le gouvernement qui, eux, veulent tirer tout le monde vers le bas. Moi, je préfère que tous les gens qui ont des travaux, travaillent un travail pénible, partent plus tôt. Il n'y a pas de cheminots ou pas cheminots. Voilà.
Et les gens du privé, pareil.
Des gens assez compétents et qui sont assez proches du peuple pour diriger la France.
Je suis avec Éric Bocquet, sénateur.
Bonjour.
Vous avez regardé les vœux de Macron?
Oui, j'ai regardé les vœux de Macron, oui.
Ça vous a convaincu?
Convaincu de ce que je savais déjà, c'est un homme du capital, c'est un homme de l'argent. Il est arrivé, j'ai envie de dire, par effraction. Il a été élu contre qui on sait, pour éviter le pire. Il a rassemblé un électeur sur quatre exprimé au premier tour. Et avec ça, on croit qu'on a mandat pour changer fondamentalement cette société. Il avait publié un bouquin pendant sa campagne qu'il avait intitulé « Révolution ». Alors c'est une révolution, mais c'est une révolution conservatrice, ultra-libérale. Clairement, il a été construit, financé, fabriqué par ce monde-là. Et aujourd'hui, il leur sert la soupe. Donc il faut casser le modèle social français. Ce qu'on vit pour la retraite, c'est l'un des pans de l'objectif visé depuis le départ. Laisser la place au marché. Et là, le marché, pour l'histoire des retraites, c'est BlackRock. Alors le gouvernement s'en dépend, oui.
Le lendemain des vœux,
oui.
On remet la médaille de la Légion d'honneur,
oui.
Au patron de BlackRock.
Tout à fait. Jean-François Cirelli. Ça en dit long, mais je me souviens d'une audition. On avait auditionné à la commission des finances du Sénat en février 2017, M. Cirelli, au nom de BlackRock. Et il nous avait présenté son groupe, parce qu'il n'est pas très connu ce groupe. On en parle maintenant un peu grâce à ce mouvement, mais c'est le plus grand groupe financier d'investissement au monde. Je me souviens à l'époque, Cirelli expliquait que son groupe pesait 5000 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est à 6000 milliards de dollars. C'est deux fois et demi le PIB de la France. Il faut prendre l'échelle quand même. Hein. Ils sont présents dans tout, ils sont comme actionnaires dans tous les grands groupes du CAC 40 en France. Et là, ils attendent l'opportunité de s'engouffrer dans cette brèche pour proposer aux citoyens français des plans d'épargne retraite individualisés, pas du tout solidaires, et ne pourront se le payer que ceux qui auront les moyens de le faire. C'est la fin d'un système solidaire, celui qu'on a en France, construit au lendemain de la guerre, dans un pays dévasté par la guerre. On a réussi à construire ça, et ça a permis à la France de progresser, d'apporter une société humaine, donner un droit à la retraite décente à peu près, à tout le monde. Tout ça a été grignoté depuis des années. Ça n'a pas commencé avec Macron. C'est un processus long, mis en place il y a 15-20 ans à peu près. Je me souviens du livre blanc de Michel Rocard à l'époque, qui déjà préfigurait ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire mettre fin à un système de répartition et pour aller progressivement vers un système par capitalisation. Voilà ce qui est en train de se passer.
Est-ce que vous connaissez Stéphane Sirot, un historien du mouvement social? Ça veut dire
Non, je ne connais pas.
On l'a interviewé il y a 10 jours, ouais. Et on lui demandait si finalement ce mouvement, c'est un historien militant, hein, mais si ce mouvement ressemblait plus à 95 et sa victoire, ou 2010 et sa défaite. Il nous répondait, malheureusement, les signes que je perçois me font penser plus à 2010, et donc à une défaite. Il risque de plier en face là.
Ah, ils sont très déterminés, hein, faut pas se cacher, que ce mouvement doit continuer et amplifier encore. Donc là, je veux dire, il y a déjà une première victoire, il y a eu des premiers reculs sur certains régimes. Ce fameux régime universel, entre guillemets,
ne l'est déjà plus.
Voilà, ils ont lâché pour les policiers, pour les gendarmes, à l'opéra, très bien. Il faut s'en féliciter, il faut mettre ça à l'actif de la lutte. Donc ça veut dire qu'on peut gagner. On peut gagner. Mais c'est sûr qu'on a en face un gouvernement déterminé, droit dans ses bottes, motivé. Mais voilà, il faut que le peuple en prenne conscience, c'est ce qui est en train de se passer.
Tirez. Voilà.
J'ai interviewé un historien de la grève qui me disait, malheureusement, dans sa militante, ce qui se passe là, ça ressemble plus à 2010 et à la défaite qu'à 95 et à la victoire. Vous en pensez quoi, pour ça ?
La différence avec 95, c'est que je pense que la mentalité des gens et la société a changé. C'est ce que veut le gouvernement, l'individualisme. Chacun pense à sa tête et pas aux autres. Il n'y avait plus de solidarité entre nous. En 95, on avait de la solidarité. Moi, j'ai connu 95. La convergence des luttes, ça s'est fait tout de suite. Et le cheminot était respecté. Maintenant, le cheminot, il prit comme un privilégié.
Les gens ont l'impression qu'on est là pour les faire chier le monde et puis pour défendre notre petit bout de pain.
Voilà. Alors, c'est... quand même, ça veut dire que vous avez des raisons d'y croire.
Nos enfants, l'avenir de nos enfants.
Bon, moi j'ai une retraite, pourquoi mes enfants ils n'auraient pas de retraite? Moi je vais être en retraite, pourquoi mes enfants, mes petits-enfants
Vous allez bénéficier de la clause du grand-père et du don?
Non, moi j'ai la retraite normale. Mais après rien ne m'empêche que quand on va passer au régime à points, nos pensions vont être valorisées par rapport aux points. Parce qu'en 2025, tout le monde va être dans le même régime. Comment ils vont faire pour moi par rapport à ma retraite?
Et à savoir qu'ils nous parlent de la clause du grand-père. Donc moi je suis né en 74, donc ça fait 20 ans. Ouais. Non mais je suis conducteur, donc tu vois, jusqu'à 85, soi-disant on n'est pas touché. Mais à savoir qu'ils nous enferment dans un statut en nous disant qu'on n'est pas touché. Mais on vient de passer société anonyme. Et à savoir que la concurrence arrive et dans quelques années, si on est privatisé, et de toute façon on va être privatisé parce que chaque région va avoir le droit à prendre un partenariat. Et donc nous on va nous envoyer travailler pour des entreprises privées. Et au bout de 15 mois, lorsqu'on sera dans cette entreprise, on perdra notre statut de cheminot. Donc ils peuvent nous vendre tout ce qu'ils veulent aujourd'hui en tant que cheminot. Mais quoi qu'il en soit, on va le perdre, on va être condamné. Donc même le mec qui est après 85, il n'y a plus rien qui tient debout. Voilà. On va être privatisé et donc tous nos statuts et tous nos avantages, on va les perdre. Donc il n'y a plus rien qui tient debout. On ne sait pas où on va.
Moi je vais parler de deux choses. Je vais parler des lycéens et des étudiants. Les lycéens, ça va faire un mois, le mois dernier, avant les vacances, ils n'ont pas arrêté de bloquer. Ils ont fait des blocus quasiment tous les jours et la répression policière, elle était énorme. Leur revendication, c'est contre la réforme qui a été faite sur le bac, contre la réforme dans les facs, contre la réforme du chômage, contre la réforme des retraites.
Ce monde de l'argent veut tout dominer. Et Macron est un serviteur zélé, brillant, motivé de ce monde de l'argent qui veut s'emparer de tout.
On met des bâtons dans les roues. Et dans tous les cas, que ce soit les lycéens et les étudiants, on est en total soutien avec toutes les luttes qu'il y a actuellement et on sera présent que ce soit au rassemblement ou aux manifestations. Voilà.
Millions d'habitants en France, c'est 66 millions de clients potentiels pour les assurances privées, dont BlackRock fait partie. Alors le gouvernement nous dit non, c'est pas vrai, BlackRock ne s'occupe pas des retraites, mais si, M. Cirelli lui-même l'expliquait en 2017 à la commission des finances du Sénat. Trois quarts de leurs produits financiers servent à financer les retraites. Par exemple, BlackRock aux États-Unis finance les retraites des enseignants du Texas et des pompiers à New York.
Des salariés avant même, et on a l'impression en fait avec cette nouvelle réforme, on va travailler jusqu'à qu'on va crever. Et c'est pas normal, en fait. Parmi les choses qu'on dénonce aujourd'hui, on veut, en fait, que les années d'études soient comptées dans la retraite. On veut que les jeunes, en fait, aujourd'hui, lycéens et les jeunes, en fait, à la fac, se mobilisent. Mais certes, c'est très, très compliqué, parce qu'on est en plein période de partiel, comme ma collègue l'avait dit. C'est compliqué de pouvoir quitter les partiels et venir, en fait, en manif. Mais on essaie de faire notre mieux. Aujourd'hui, je suis très, très contente contente de vous voir nombreux et nombreuses venir dénoncer en fait ce qui se passe à l'intérieur de notre gouvernement, parce que c'est injuste que c'est toujours en fait les minorités, c'est toujours en fait les pauvres qui en prennent plein la gueule littéralement. Et tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la grève va continuer, on va continuer de lutter et c'est pas encore fini. Merci à vous.
Quand on prend un mois de grève dans la gueule et en plus on se fait cracher dessus parce qu'on est des feignants et puis on fait chier le monde, ça pique un peu. Mais voilà. Après, je sais pourquoi je le fais. J'ai deux enfants et voilà. Je le fais. Quand je vais pas bien, quand j'ai le moral à zéro, ben voilà, je pense à eux. C'est tout. Terminé.
C'est ceux qui luttent qui ont raison.
Votre attention, s'il vous plaît. Suite à un trop faible taux de remplissage, le train de votre compagnie privée est supprimé. Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément occasionné par le gouvernement.
Je dis que bon, bon, bon.
Tu dis que les cheminots sont des nantis bien compliqués qui veulent
pas bye bye bye.
Et pour continuer, pour réformer cette société, un grand ménage, nage, nage.
Je dis que bon, 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 ne tu dérailles, bon, ne tu dérailles. Je dis que bon, bon. Borne, tu dérailles.
Les petites lignes dans les régions sont pas dans le nouveau monde. Tu leur dis bye bye bye. C'est que tes monologues que tu appelles concertation donnant que dalle dalle dalle.
Je dis que borne, 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 tu dérailles. Je dis que borne. Bon, je dis que tu dérailles, que tu dérailles, que tu dérailles. Je dis que tu dérailles, que tu dérailles, que tu dérailles. Il va tuer le rail.
C'était Patrick Fernandez, Born tu dérailles, avec l'équipe dont Passe au Rouge qui chantait derrière.
Elisabeth Borne, c'est la ministre du Transport. Ah
ouais. Merci. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6.
Le gros con qui explique les blagues.
Merci gros con de me laisser parler. Ça suffit. Alors des fois, alors oui, on est des gens très occupés, on passe pas toujours tous les sons qu'on a enregistrés et des fois on tombe sur des perles. Et là, on se propose de vous en passer deux coup sur coup. Ne zappez pas, hein, puisque là on va aller voir un médaillé du travail qui manifestait de nuit lors de la première retraite au Flambeau lilloise. Ça date un petit peu, mais on va aller écouter ce qu'il a à nous dire.
Les riches s'enrichissent de plus en plus, les pauvres s'appauvrissent et on a cette misère dans la rue au quotidien. Moi, je côtoie des SDF qui avaient un boulot, ils n'arrivent même plus à bouffer, quoi. Ils mangent des petits pois carottes avec une tranche de fromage dedans. Voilà, c'est ça. La réalité, aujourd'hui, elle est là. Elle est là, c'est vrai. Et en plus, ils veulent faire travailler nos enfants encore plus tard et on va mourir comment? Au boulot? Ils vont se crever au boulot. Ils n'ont rien, pas de loisirs, pas de culture, rien. C'est ce que, aujourd'hui, c'est ça, ce qu'ils veulent. Un gouvernement comme ça, libéral à fond.
Vous avez la médaille du travail, là, épinglée oui. Sur votre veste.
Oui, oui.
Donc vous n'êtes pas finalement un feignant de grévistes?
Non, non. J'étais à la SNCF, j'ai travaillé.
Combien de temps?
30 ans, 32 ans.
Mais comment on fait pour avoir la médaille du travail?
Au bout de 30 ans. 25 ans, on a une médaille, après on a une autre médaille. Voilà.
Une médaille, mais pas de retraite.
Alors j'ai eu la médaille, mais j'ai pas eu l'argent en compensation. J'ai une breloque. On appelle ça une breloque. Hein. En 14-18, on mettait des médailles comme ça, aujourd'hui encore. Hein. Les gens qui meurent pour la France, on leur remet les militaires. Mais c'est bien, ils ont. Voilà.
Et moi, c'était pareil. Voilà, on m'a mis une breloque, mais j'ai pas eu l'argent. Et je suis bien. Mais je la mets, hein. Parce que je mérite de... Voilà, quoi. Je suis fier de la porter. J'ai bossé à la SNCF pendant 30 ans, 32 ans. J'ai fait les astreintes, samedi, dimanche, une fois tous les 4 semaines. Je travaillais une nuit, tout ça. Je suis esquinté, là. J'en veux plus. Je suis en retraite, mais je suis malade. J'ai mal partout.
À cause du boulot.
À cause du boulot. Je travaille sur la voie.
Donc là, on continue. On va aller rue d'Oisem le 24 janvier dernier avec Jean-Louis Bouzin, qui est l'ancien rédacteur en chef de Liberté Hebdo.
Et qui a passé son enfance dans cette rue d'Oisem. Là, ah, c'était dans
beau.
Une manif.
Ah, c'est beau.
Il y a une espèce de télescopage entre l'envie naturelle des gens à vivre normalement, puis avoir leurs enfants et petits-enfants, avoir une vie correcte, et puis les conséquences de cette politique néolibérale, ou on l'appellera libérale, qui maintenant, de plus en plus ouvertement, montre son véritable visage, c'est le visage de la régression sociale, du retour en arrière, hein, le nouveau monde. En fait, c'est le retour à l'ancien monde, avec la précarisation de l'emploi, avec la dégradation dans tous les domaines. On voit bien l'hôpital, l'enseignement, la sélection à l'école, avec la réforme du bac, etc. On voit bien, même les avocats, tout le monde en prend en plein la figure, quoi. Ça craque de partout. Et donc, on arrive dans à un moment où on sent qu'il peut se passer des choses, quand même. Et évidemment, il y a un certain nombre de gens qui n'osent pas mettre le pied dans une manifestation, se mettre en grève, parce qu'ils craignent pour l'avenir, justement. Cette crainte pour l'avenir, ça freine un peu l'entrée en action d'un grand nombre de gens, mais n'empêche, ces gens ne sont pas satisfaits, quoi. Ils s'inquiètent beaucoup, il y a une profonde inquiétude sur l'avenir. Et on voit bien le pouvoir actuel, il est quand même en réelle difficulté, quoi. Je pense qu'ils sont très mal. Voilà.
On est Redouazem avec Jean-Louis Bouzin, l'ancien rédacteur en chef de Liberté Hebdo. Certains voient là en fait comme l'aboutissement de plusieurs mouvements sur plusieurs strates finalement qu'on démarrait disons en 2016 oui. Avec les cheminots, la lutte contre les deux lois travail, les lois Macron.
Ah oui, non, mais c'est un processus, hein, ouais. c'est comme un train. Effectivement, il y a souvent j'entends les gens dire bon voilà on a lutté puis ça a servi à rien, c'est pas vrai. Hein. Toutes les mises en action, toutes les désobéissances, les mouvements, les luttes, les grèves, même qui semblent ne pas aboutir dans l'immédiat, en fait, elles apportent, elles éclairent, elles ouvrent le chemin, et elles rebondissent souvent, enfin, on le voit actuellement. Là, par exemple, le fait que le pouvoir ne vienne pas à bout de ce mouvement contre les retraites, qui risque de durer, sous une forme ou sous une autre, hein. On sait bien, bon, les grèves, on ne peut pas faire grève 6 mois, mais il y a 50 ans, même plus, dans les années 20-30, on entendait souvent parler de grèves qui duraient 4 mois, 5 mois. C'était souvent des grèves où les entreprises se mettaient en grève l'une après l'autre, quoi, et se relayaient, il y avait un relais. Alors aujourd'hui, on est un peu dans une période un peu identique. Enfin, moi, tout vient... Il y a une accumulation, oui. Ça n'a pas démarré le 5 décembre. Ça s'est venu déjà sur un terreau de mécontentement, d'aspiration, d'attente sociale. Et voilà, quoi. Et à mon avis, là, ça s'amplifie.
Alors, c'était nos petites perles pêchées rue d'Oisem, mais également à la dernière manif de retraite au Flambeau. Juste après la chanson, on retrouve Frédéric de Martelard, qui est adjudant-chef à la caserne des pompiers, qui vient nous parler de ces prétendues victoires obtenues par les pompiers et de la suite de leur mouvement. Radio Campus Lille, disponible en DAB+.
Mi tierra con sangre obrera,
los que hablan de libertad, ni tienen las manos negras los que quieren dividir a la madre de los hijos y quieren reconstruir la cruz de arrastrar a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que estamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria, la estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma le suene por los caminos del pueblo desde ahora y para siempre.
Isabel Parra, Vientos del Pueblo.
On passe au rouge, chaque lundi, de 19h à 20h, sur Radio Campus, en 6,6.
Et tout de suite, Jean-Jacques accueille Frédéric de Martelard, l'adjudant-chef à la caserne de pompiers Bouvines, à Lille. Bonjour.
Bonjour.
Bon, téléphoniquement, hein, on vous a par téléphone. Sûr. Alors, Frédéric de Martelard, est-ce que vous risquez de nous quitter à tout instant pour une intervention, là ? Rassurez-nous.
Oui. C'est très possible.
Rassurez-nous.
Bon, on va commencer nos questions alors. Hein. On va commencer nos questions, mais d'abord on va écouter quelques sons là, pêchés lors de la manif du 29. C'était le jour d'après cette fameuse manifestation à Paris où les pompiers ont fait une manifestation remarquée et qui a été soldée finalement à la fin de la journée par des annonces disant que l'intersyndicale des pompiers avait gagné et que donc les pompiers se retiraient du mouvement.
On écoute.
Qu'est-ce que tu veux dire par rapport aux pompiers qui en intersyndicale ont décidé de se retirer du mouvement?
Bah d'abord, en regardant un peu ce qu'ils ont gagné, ça a l'air des peanuts, je suis un peu surpris. Bon, enfin, ça, c'est les gens qui décident de ce qu'ils veulent faire. Est-ce que les organisations syndicales qui ont accepté vont dans le sens de leur base? J'en sais rien, ça on le verra par les jours qui arrivent. Mais ce qui se montre depuis de plus en plus, et ce qui rentre bien dans la tête de beaucoup de manifestants, c'est que l'année dernière, les Gilets jaunes ont 1 million de personnes dans l'Arc de Triomphe. Vous savez, Macron avait son hélicoptère qui était prêt pour partir je ne sais pas où. Ils avaient tellement pris peur qu'ils ont dû lâcher un peu de grain à moudre. Hier, les pompiers, ça a été du monde. Toute la profession était à Paris. Ça a tapé dur, ça a été très violent. J'espère et je crains que les syndicalistes, tous ces gens qui manifestent contre ce projet que personne ne veut, y compris le Conseil d'État, ne finissent par arriver à la conclusion qu'il faut être nombreux et taper dedans. Moi, je pense que maintenant, il faut très vite organiser un très grand rassemblement pour faire le siège de l'Assemblée nationale le jour où le projet passera. C'est-à-dire qu'il faut que les organisations syndicales appellent tous les Français à descendre à Paris pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, faire le siège de l'Assemblée nationale, reprendre ce qui nous est introduit, c'est-à-dire la maison du peuple. Il faut arrêter que des godillots votent n'importe quoi, y compris des textes à trous.
Bon, bah l'appel est lancé alors.
Bah, j'espère qu'il sera entendu.
Merci. Les pompiers ont gagné leur lutte là apparemment, l'intersyndicale décide de se retirer du mouvement, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Bah, je demande à voir parce que les pompiers, les pompiers de base, si on peut les appeler comme ça, je suis pas convaincu qu'ils aient vraiment gagné. En fait, ils ont gagné quoi ? Un pourcentage sur la prime de feu. Bon, tant mieux pour eux, mais tous les autres dossiers sont toujours en attente. Enfin, il y a un manque cruel de moyens et puis la question de leur retraite, elle est pas non plus assurée. Donc, j'attends de voir. Je suis pas convaincu qu'ils soient complètement retirés du mouvement.
Les pompiers, avec tout, les pompiers, avec tout, les pompiers.
Les pompiers ont décidé d'arrêter le mouvement parce qu'ils avaient eu des promesses du gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ?
Non, ils n'ont pas décidé d'arrêter le mouvement. Ils ont décidé de se retirer de la grève actuellement. Ils n'ont pas décidé d'arrêter le mouvement. De toute façon, leurs revendications, elles datent de combien d'années ? Il y a combien d'années que les mecs qui revendiquent ?
Ça fait des dizaines d'années.
Ça fait des dizaines d'années qu'ils revendiquent. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, on voit aussi la pénibilité et la dangerosité du travail. Il va falloir qu'on différencie. La pénibilité, c'est quelque chose qui rend le travail pénible. La dangerosité, moi je suis un gazier à l'origine, c'est dangereux mon métier. Le métier de policier, c'est dangereux. Le métier de pompier, c'est dangereux. Donc il va falloir qu'on fasse une différenciation entre la dangerosité et la pénibilité du travail. Mais il faut qu'on en discute. Il faut qu'on en discute et il faut que ça rentre en ligne de compte.
Moi, mon gros souci, c'est que ces camarades-là, maintenant qu'ils ont eu ce qu'ils valaient, ils ne suivent plus le mouvement. Par exemple, à l'Opéra de Paris, les mecs, ils ont bien compris qu'ils allaient avoir ce qu'ils veulent, mais ils continuent, c'est pour ceux qui suivent, exactement.
Là, les pompiers ont eu des assurances, des promesses concernant tout leur métier.
Oui, mais avec des promesses, on peut mourir de faim. Hein. Moi, si c'était signé, je dis peut-être. Là, c'est que des promesses, hein. C'est tout.
Alors, les pompiers se sont retirés de la grève, là, parce qu'ils avaient eu gain de cause. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ?
Au vu de ce qui s'est passé hier, moi je l'ai vu, eux se sont défendus, ils ont été au charbon, comme on dit, ils ont un peu plein la gueule. Hein. Il y a un mec qui s'est fait shooter à l'LBD hier, je sais pas si vous avez vu.
Ouais, tout à fait. Oui.
Je sais même pas, on a des nouvelles de ce gars-là ?
Non, pas de nouvelles. Celui qui était monté sur le camion Lansao, oui.
Ah, putain, après, c'est quand même malheureux d'en arriver là, quoi. Merde.
Après, on est quand même déçus qu'il y ait... Après, on sait toujours que la politique du gouvernement, c'est divisé pour mieux régner.
C'est ça.
Donc, ouais. Ils opposent des corps de métier entre eux. Après, moi, je regrette un petit peu s'il y a une désolidarisation... Des pompiers, moi ça me déplore, mais maintenant.
Et on aura certainement la même chose avec les avocats parce qu'eux ils ont aussi beaucoup beaucoup à perdre.
On est avec Frédéric de Martelard, adjudant-chef à la caserne des pompiers Bouvines à Lille.
Alors le soir du mardi 28 dernier, les médias annonçaient que les pompiers avaient gagné dans leur revendication. Qu'est-ce que vous avez gagné exactement, Frédéric de Martelard ?
Il y avait un de nos interlocuteurs là, qui a bien répondu en disant qu'en fait, en réalité, on n'a rien de gagné. Enfin, déjà, on n'a surtout rien gagné par cette mobilisation-là. Il y a eu une annonce de fait qui dit qu'effectivement, à l'été, il y aurait un texte qui serait écrit et qui nous apporterait quelques points de bonification supplémentaires.
Concernant la prime de feu.
Ouais. Voilà. Bon.
Et les effectifs.
C'est une des revendications parmi tout un tas d'autres revendications. Et j'ai envie de dire, c'est quand même plutôt l'arbre qui cache la forêt. Au-delà du fait que déjà, concernant cette prime, les contours de ce qui va être écrit ne sont pas écrits. Mmh. Donc la première chose, c'est...
On parle de 25% par rapport à 14% qui était le cas auparavant.
C'était 19.
19. Okay.
Ouais. Mais c'est pas le truc, c'est que bon, c'est quelques points, d'accord. Cela dit, est-ce qu'ils vont être échelonnés sur 10 ans ? Mm-hmm. Est-ce que ils vont être à la diligence des payeurs, donc les départements, qui ont déjà signalé vent debout qu'ils n'avaient pas les moyens d'assumer ce que Castaner avait proposé, puisqu'en fait, ils n'ont pas le financement pour le faire.
Oui, parce qu'ils assument de plus en plus de compétences et donc ils n'ont pas forcément les budgets pour ça.
C'est ça. Et puis en plus, ils sont plus ou moins contraints par les accords de Cahors qui les obligent à ne pas investir plus de... de s'endetter à plus de 1,2%. Donc ils sont bloqués. Ça a déjà été dit que c'était pas tenable pour les payeurs. Alors maintenant, nous, par rapport à ça, donc déjà, on va l'écrire. Comment ça a été fait sur la forme ? Castaner, il est arrivé là, comme un mafieux, disant, voilà,
étonnant.
C'est un ultimatum. Soit vous arrêtez la grève et on discute, soit vous continuez, mais moi je retire tout et puis on en reparlera plus tard, je vous écoute même plus. En gros, c'est ce qu'il a fait. Donc, à brûle pour point, les 7 syndicats ont dit, ce que vous nous proposez, c'est quand même pas des abrutis, les gars, ils savent comment ça se passe et c'est certainement pas des dirigeants nationaux des syndicats qui peuvent dire en appuyant sur le bouton, on fait la grève, on arrête la grève, on fait la grève, on arrête la grève. Les grèves se votent en assemblée générale dans toutes les structures syndicales, hein, c'est comme ça que ça se passe, et l'arrêt d'une grève et les modalités d'une grève se votent en assemblée générale. Donc, en substance, forcément, l'intersyndicale a levé le préavis de grève intersyndical corporatiste pompier. Maintenant, si on prend par exemple l'exemple de la CGT, qui est celui que je connais le mieux puisque c'est mon syndicat, je sais que on a un préavis de grève fédéral de la fonction publique qui dit on est en grève jusqu'au moins au 28 février. Donc, pour l'instant, en ce qui nous concerne, il n'y a rien qui change. Et d'ailleurs, c'est le mot d'ordre qu'on a fait déjà passer. Et ensuite, on va faire une AG avec l'ensemble des pompiers, au moins dans le Nord, hein, pour le coup, mais ça va être ça, à mon avis, sur l'ensemble du territoire français, pour dire que fait-on, on continue, on arrête. À mon avis...
C'est pas encore le cas, alors. Hein.
Au regard de ce que moi j'entends, les gars ont l'impression d'avoir été pris pour des buses.
D'accord.
Et je pense pas que le mouvement va s'arrêter comme ça, non.
Ça veut dire que le 6 février, là, ce jeudi, pour la grande manifestation nationale et régionale à Lille, porte de Paris à 14h30, on vous y verra?
Il y aura les pompiers. Alors, ils y seront. Alors, parce que là, forcément, il y a un flottement. Donc, moi, je serais plutôt à dire qu'après le 11, parce qu'il va y avoir une AG le 11. Alors, c'est complètement difficile de mobiliser les gens quand ils sont dans le doute. Parce que là, en fait, ils ont des messages médiatiques qui ont été tabassés, genre, il n'y a plus de grève, les pompiers arrêtent la grève, etc. Il y a les bruits de couloirs qui disent voilà, il y a la grève, non, il n'y a pas la grève, donc il y a beaucoup de débats là-dessus. Donc les gens sont un petit peu sont désorientés par rapport à tout ça.
Puis il y a des syndicats qui se sont couchés, à proprement parler.
Là, actuellement, moi, j'ai entendu Avenir Secours, mais c'est un syndicat de cadre a priori, mais je parle toujours avec des parenthèses, parce que même moi, j'ai pas toutes les informations de tous les syndicats. Mais il semblerait que oui, il se soit dit, bon, bah c'est bon, ça a assez duré, on a au moins eu ça, on peut pas trop... Puis les réformistes, de toute façon, d'une manière générale, ils disent, ouais, on a négocié des bricoles, mais c'est toujours mieux que rien. Cela dit, comme je vous l'ai dit, c'est que une partie infime de tout ce qu'on avait demandé.
Oui, nous, parce que vous avez...
Ce qui nous intéressait davantage, c'était d'une part le retrait du projet de réforme des retraites, parce que nous, on est aussi impactés, alors ils vont nous faire...
Alors là-dessus, sur le projet de réforme des retraites, vous avez eu une promesse encore, hein, que vous pouviez partir à 57 ans.
Les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent, d'une part, et ensuite, l'âge de départ en retraite, mais ça, la CGT le dit depuis le début, n'est qu'un nuage de fumée qui cache la prime avec laquelle on part en retraite, effectivement. Parce que dire à tout le monde qu'ils vont partir en retraite à 55 ans, ou à 50 ans, ou même à 45 ans, enfin, je veux dire, il pourrait le dire, c'est pas un problème, mais avec une décote en mesure, c'est facile.
Genre, oui, partir à 57 ans, mais ruiné, quoi.
Nous, on a compté chez les pompiers qu'avec le système qui propose, parce qu'ils en ont quand même discuté, entre quelqu'un qui part en retraite aujourd'hui, un gars de catégorie C, hein, je veux dire, pas un officier, quelqu'un de moyen, fin de carrière, partir en retraite avec 2000 euros environ, et avec le système qui va se mettre en place dans 25-30 ans, celui qui partira en retraite avec 500 euros de moins. Donc c'est quand même un quart de moins. Et ça c'est dans le meilleur des cas, si le point restait tel qu'il est, etc., etc. Parce que ça aussi, il faut savoir que le point... sur un simple décret, le point, on lui donne la valeur qu'on veut.
Et dans les autres pays où ça marche comme ça, il baisse le point.
Oui, bien entendu. De toute façon, il n'y a aucun pays où la retraite à point a été bénéfique. Donc ça, c'est simple. Mais surtout, nous, on le voit parce qu'on est fonctionnaire, le point d'indice, donc c'est un point également, hein, il est gelé depuis 10 ans pour nous. Donc après, enfin environ, hein, avec on l'a dégelé, on le regèle, etc. Mais donc on sait très bien que le point, on lui donne la valeur qu'on a envie. Donc on sait très bien que c'est une arnaque. On sait très bien que c'est une arnaque, mais en plus, c'est une arnaque pour les actifs qui vont devoir cotiser davantage pour avoir une retraite moindre. Parce que c'est ça, la réalité, hein. quand on regarde de comptablement. Puis bon, de toute façon, enfin, c'est, tout est bancal, il n'y a rien de cohérent dans ce qu'ils font, donc ouais, forcément, il y a ce problème-là. Mais il n'y a pas que. Il y avait le problème du financement des SDIS, parce que les gens le savent peut-être pas, mais les SDIS sont financés en grande partie par les départements et par les communautés de communes. L'État n'y a qu'une part minime. En fait, l'État paye ce qu'on appelle une taxe spéciale sur les assurances, une TSCA, hein, qui distribue au département. Voilà. Et en fait, c'est tout. Ça s'arrête là. Alors, nous, ce qu'on aimerait, c'est que l'État, au lieu de continuer à se désengager comme il le fait depuis des années, au contraire, financièrement, s'engage davantage. Parce que le budget de l'État, c'est pas le même que le budget d'un département, il est bien plus élevé. Et ça pourrait être une opportunité d'effectivement améliorer nos conditions de travail, de pouvoir recruter des gars.
Vous, sur les conditions de travail, justement, ça fait longtemps que vous dites qu'il y a un grave manque de personnel. Et là-dessus, vous n'avez eu aucune avancée.
Non, c'est toujours la même chose. C'est que on a un système qui est tendu déjà. Et en fait, ils le tentent davantage. Il faut savoir que dans le Nord encore, on est plutôt pas trop mal loti, mais il y a des départements où la règle, quand il faut décaler à 6, parce que pour la sécurité du personnel, c'est 6, et c'est normal, c'est l'armement type, et ben les mecs, ils partent à 4. Donc en fait, ils font à 4 ce qu'ils devraient faire à 6. Autant dire qu'ils se mettent gravement en danger. Mais pas que.
Et ils mettent en danger les usagers, finalement.
Ben aussi, et puis même, objectivement, dans un centre de secours où il y a moins de monde, quand les engins sont tous dehors, il n'y a plus personne. Et alors, s'il y a quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque à 100 mètres de la caserne, donc s'il y avait des gens qui étaient encore là, donc du personnel supplémentaire, eh ben ils arriveraient, ils lui feraient ce qu'il faut, et ils lui sauveraient sans doute la vie. Là, c'est un centre de secours qui est à 10 km peut-être, qui va arriver et qui va donc arriver 10 minutes après et 10 minutes après
là, c'est vital, pareil,
oui, les gens sont morts, ouais. Hein, on a beaucoup de mal à les récupérer. Donc voilà, l'effectif, c'est primordial, c'est des vies. Alors la vie, ça a un coût, voilà, ça a un coût, ouais. ça coûte des pompiers, voilà.
Vous aviez aussi des revendications sur la situation d'agression dont vous pâtissez assez souvent lors de vos interventions, et vous remettez ça dans un cadre, la question des insultes que vous recevez, des agressions que vous subissez, vous remettez ça dans un cadre politique plus général.
Mais c'est-à-dire que il y a eu une époque où la France avait un côté un peu plus social qu'aujourd'hui, et donc on avait des médiateurs dans les cités. Rappelez-vous, à l'époque, c'était encore bien avant Sarkozy, hein, mais il y avait les flics qui faisaient des matchs de foot avec les gars des cités. Donc, je dis pas que c'était des solutions, c'était pas la solution à tous les problèmes. Cela dit, à cette époque-là, on n'avait pas une aversion comme on la vit aujourd'hui par rapport au pouvoir public.
Aujourd'hui, vous êtes en première ligne.
Et on est en première ligne, il n'y a plus personne pour faire de médiatisation entre nous et les gens qui sont agacés. Alors oui, effectivement, mais ça c'est des réponses qui sont politiques, c'est un projet de gouvernement et attendez.
Ah, intervention peut-être.
Eh oui, je dois m'en aller.
C'est au boulot.
Ah, donc on est en direct avec Frédéric de Martelard.
On a tiré le temps qu'on pouvait.
Adjudant chef à la caserne Bouvines, et il doit nous laisser. Alors, merci beaucoup de votre disponibilité. Bon courage.
Merci, au revoir.
Oui, on est toujours à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6. Et ce sont les impératifs du direct. Oui. Je sais plus.
Et c'est on passe au rouge avec. Jusque 20h avec Massy, là, qu'on retrouve tout de suite pour sa chronique, tous un peu. Et c'est parti.
On passe au rouge, une émission que t'écoutes quand tu veux, en podcast sur campuslille.com.
Massy, reviens dans la partie.
Vous vous rendez compte que votre plateau est...
Oups, ça c'était pas vrai, c'est pour tout à l'heure. Ça.
Attendez là,
on t'écoute Massy.
Je veux commencer.
Bah, vas-y Massy.
Alors, au cas où vous habiteriez dans des grottes, je reviens aujourd'hui avec une chronique sur l'actualité. C'est quand même important de savoir ce qui se passe dans le monde, parce que oui, c'est la merde en France, mais c'est aussi la merde dans les autres pays. Et du coup, il faut en parler. Donc je suis avec Flavien. pour qu'il m'aide à décrypter l'actualité. Bonsoir Flavien, comment ça va ?
Bonsoir à toutes et à tous, ça va très très bien, et toi Massila ?
Alors...
Massila a perdu son
texte. Ah mais moi je me porte à
ça
merveille,
va,
non mais ouais,
tu
ouais faut vraiment
aujourd'hui.
Que je redescende.
T'as l'air bien, hein, non mais t'as l'air bien.
Non mais
non,
ce que...
t'as l'air bien.
Je réfléchissais encore en fait à ce que Fred disait et je trouvais ça plutôt intéressant, mais oui, moi je vais à merveille. Non mais c'est vrai.
Il n'était pas prévu que vous fassiez votre chronique aussi rapidement. Aussi,
mais de toute manière, comment est-ce qu'on peut aller mal dans le pays des droits de l'homme et du citoyen qui sont respectés même à l'international ?
Alors, excuse-moi, mais je ne suis pas d'accord avec toi, je ne pense pas qu'ils soient respectés à l'international.
Mais c'est parce qu'il faut adapter ses droits aux pays dans lesquels on vit. Prenons le droit de vote, par exemple. On a le droit de vote en France, voire le devoir d'aller voter depuis des centaines d'années déjà. Même nous, les femmes, on peut voter. C'est quand même un truc de ouf. Mais les droits de l'homme sont écrits sous le titre « droit de l'homme » avec un grand H. Donc ça s'appelle pas « droit de l'homme et de la femme ». Donc peut-être que par souci de traduction ou d'économie d'encre, dans certains pays, on a oublié la place de la femme, voire quelques parties du texte.
Ah oui, je vois. C'est un peu que lorsqu'un pays colonialiste reste dans ses ex-colonies pour des raisons économiques, et lorsqu'il n'a plus d'intérêt là-bas, bah, il se casse.
Exactement, Flavien. Mais en parlant de pays colonialistes, tu sais à quoi tu me fais penser ?
Bah peut-être, mais dis-m'en plus.
Dis-m'en plus.
Ah oui, bah, dis-lui plus.
Dis-lui plus, allez.
Non mais, c'est parce qu'il me fait... J'essaye de faire vivre le suspense, d'accord ?
Ah pardon. Oui, pardon.
À ton avis, Seb, à quoi il me fait penser ?
Eh bien, je sais pas. J'hésite entre les petits chats, Israël ou Marine.
Non, ne remettez pas en cause notre professionnalisme, s'il vous plaît.
Exactement. Non, donc, bon, tu me fais penser aux États-Unis, à ce cher président Trump, mon cher Flavien.
Ah. Tu fais du coup référence au plan pour la paix, peut-être.
Exactement. Mais qu'est-ce que c'est que ce plan pour la paix ?
Il le prend bien.
Tu peux nous en dire plus ?
C'est très simple. C'est un plan qui vise à redéfinir les frontières d'Israël et de la Palestine.
Exactement. Oh, alors, okay. On va redonner...
Rire non prévu dans le texte.
Exactement. Non, mais en fait, en gros, on va redonner les terres aux Palestiniens et arrêter de les opprimer.
Bah ouais. Alors, juste non, mais on n'est pas dans une utopie non plus, hein, sans déconner. Trump a dit que la ville sainte resterait la capitale indivisible d'Israël.
La ville sainte, tu parles de Jérusalem ?
Bah évidemment, mais enfin, t'as l'air choqué là, qu'est-ce qui se passe ?
Pourquoi je suis choqué ? Genre... Ça te choque pas, toi, cette tentative d'annexion d'Israël sur la Palestine, qui est en plus soutenue par les États-Unis ?
Bah, c'est pas les seuls à soutenir. Hein.
C'est-à-dire ?
Macron a salué le projet.
Ah, celui-là, il en rate pas une, hein, vraiment. Il essaye sûrement de se racheter. Voilà, moi, je pense qu'il essaye de se racheter.
Bah, se racheter une conscience ?
Mais non.
Une Rolex ?
Il essaye de...
Non, pardon.
Il essaye de se racheter par rapport à ce qu'il a fait pendant son road trip à Jérusalem.
Dis-moi en plus.
Bah, Macron s'est rendu à Jérusalem pour les 75 ans de la libération du camp nazi d'Auschwitz pour faire un tour des différents lieux saints. Et tu sais, il a plagié Chirac.
Ah, mais oui !
À l'entrée de l'église Sainte-Anne, il a, en anglais, avec presque les mêmes mots, dans presque la même position que Chirac, refusé que son escorte israélienne le suivre à l'intérieur.
Ah mais oui, Massilia, c'est vrai que ça avait fait le buzz, cette histoire-là.
D'ailleurs, en parlant de buzz, mon cher Flavien, quel était le sujet d'actualité suivant ?
Alors, écoutez-moi bien, je vais essayer de la porter comme ça avec une petite question pour Massilia.
Oh.
Alors, est-ce que tu as été impacté, toi, par ce virus qui s'est maintenant bien répandu partout en France ? Tu sais, celui qui fait chier tout le monde, là. Celui qui parfois provoque la nausée chez certaines personnes, voire même la mort.
Non, Flavien, je n'ai pas le coronavirus. Par contre, il touche toute la population asiatique, française ou non, qui réside en France, car ça a amené une énorme vague de racisme, un racisme anti-asiatique totalement banalisé.
Ah non, mais attends, moi je te parle pas de ça, hein. On va pas commencer à faire polémique avec le coronavirus. Je te parle de Marine Le Pen. Je te parle du virus surnommé le fascisme.
Oh. Mais c'est pas une actualité, c'est pas nouveau qu'elle soit fasciste, cette nana. Je comprends pas ton actu.
Non, mais attends, si, tu vas voir. En fait, elle a lancé un nouveau compte Instagram privé avec ses chats. Tu penses qu'il s'appelle comment, à ton avis ? Dis-moi.
C'est les chats de Marine Le Pen ?
Oui.
Je sais pas, au pif, Pétain, Colonel, Jeanne, Nation, Patrie ou encore N.
Non. Alors là, pas du tout, du tout. Alors, écoutez-moi bien. Il s'appelle Jazz, Yozan, Mini Minette ou encore Gavroche. Y a rien qui te choque dans tout ça ?
Si, elle a un chat qui s'appelle Mini Minette, mais c'est ridicule.
Non, je te parle pas de Mini Minette. Je te parle de Gavroche. Ça te dit rien, Gavroche ?
Gavroche ?
Mais si, tu sais, ce gamin parisien débrouillard qu'on retrouve dans le livre Les Misérables, il avait quand même des allures révolutionnaires, non ?
Moi, je pense que Marine Le Pen s'est trempée d'orientation sur Parcoursup. C'est vrai, elle aurait dû faire gardienne de zoo ou... 4 sitters.
Oui, mais en même temps, comme Parcoursup permet la sélection, sur la base de l'origine sociale, elle ne pouvait pas faire mieux que de représenter le fascisme.
Quoi qu'il en soit, si nos politiciens nous écoutent, c'est un message pour vous, mesdames et messieurs. La plateforme de Parcoursup vient de réouvrir, n'hésitez pas à vous réorienter.
On a compris, la politique c'est difficile, mais pas pour tout le monde.
Enfin, c'est pas fait pour tout le monde surtout. Si vous êtes paumé, n'hésitez pas à changer de filière. Puis si vous essayez la plateforme, vous vous rendrez compte vous-même à quel point vous êtes incompétent. Merci d'avoir été avec nous, Flavien.
Mais merci à toi aussi, Massy.
J'espère que ça vous a plu et que maintenant vous êtes un peu plus à jour sur l'actualité. Et à la semaine prochaine.
Au micro, au stylo, au Mikey, au Sally, à l'apéro, au niveau, Massy bien number one. En amour, sans détour, à la danse, en cadence, au ballon, tiens pas bon. Massy bien number one, aime à toi, ben fracas, aussi t'en fireball, quel impec, c'est la Sega. Massy bien number one, in English, en Scottish, en Gibor, le farandole, à l'arnaille, pour le wine. Massy bien number one.
Alors, on est avec Pierrette et Virginie, nos gilets jaunes préférés, que vous avez déjà tous entendus dans nos différents
nos
sujets.
Nos lutteuses de classe
oui,
favorites.
Et vous étiez elles sont sur le plateau, la manif en vrai. Parisienne des pompiers.
Rapprochez-vous des micros, là, qu'on vous entende, les filles.
Ouais. C'était chaud, vous disiez hors antenne. C'était chaud,
oui,
cette
c'était
manif.
Mercredi
vous
dernier,
allez bien,
vous
d'ailleurs,
étiez avec
bonjour,
les pompiers.
Bonjour.
Vous étiez avec un pompier, d'ailleurs. Hein.
Ouais. Alors,
comment
c'était
ça
chaud.
Comment ça
très
s'est
chaud,
passé
chaud,
qu'est-ce qui s'est passé?
Racontez-nous un peu.
Racontez-nous.
Ah bah, de toute façon, l'ambiance était déjà, je pense, bien préparée. Ils étaient très déterminés. Ça se voyait déjà rien qu'à l'arrivée à la place de la République, leur façon déjà de se poser, tranquille, manger. Et un petit peu à la fois, tous les pompiers qui arrivaient. Comme... C'est vrai que ça, c'était un moment, je pense, émotionnel. Pas pour moi, personnellement, parce que mon père était pompier. Donc ça, je voulais y assister. C'était...
Les auditeurs savent que Pierrette parle toujours de son père à un moment donné dans les interviews.
Ah oui.
Toujours.
Ah ouais, je suis allée pour ça parce que je vois pas vraiment l'intérêt de monter comme ça à Paris pour une manif de pompiers. Parce que les gens, quand on leur a dit que nous on est allés, quand on leur dit pas oui, mais mon père était pompier, ils me disent bah, qu'est-ce que vous êtes partis faire avec les pompiers? Tu vois,
et oui.
Parce qu'ils croyaient qu'avec les pompiers qui pouvaient manifester, mais
oui,
pas avec
oui,
les
oui,
autres.
Parce que Pierrette, toi tu es en retraite, je crois,
ouais, je suis en retraite,
et Virginie,
oui.
Toi tu travailles dans une crèche.
Oui, je suis auxiliaire de périculture, crèche municipale Sorroubé.
On est quand même un peu éloigné
du monde des pompiers.
Du métier de pompier sauveur.
Mais vous, vous n'avez pas froid.
Vous sauvez
vous
aussi.
Y allez.
Hein, bon.
On y va.
Vous y allez.
Bah, disons qu'on n'a déjà pas peur de l'uniforme.
Ça, ah,
mais,
bah oui.
En ayant vu déjà, c'est ça qui est important.
Ça
en ayant vu.
Ça fait combien de temps que vous militez, que vous êtes dans la lutte, comme on dit?
15 mois. Non, ouais, là, pour le début, ouais. Oui.
Niveau des gilets jaunes, 15 mois.
On a passé CGT.
Oui, parce que vous avez un passé CGT aussi, donc ça fait quoi? C'est des dizaines
moi,
d'années.
Moi, depuis
là,
j'ai 21 ans. Je fais la manif syndicale.
D'accord, donc ça fait
plus
3, 4 ans.
Plus ça passait politique
ans,
avant le CGT, la CGT.
Ah oui.
Ah oui, oui, d'accord, donc ça fait
et
longtemps.
Et je mets passé politique de côté.
Ouais, on a arrêté la politique.
C'était quoi les grandes luttes auxquelles vous avez participé la toute première là, que tu as en tête, Pierrette, c'était
oh,
laquelle?
La toute première lutte avec la CGT,
ouais.
C'était Salvatore Caballero, quand les usines chimiques ont commencé à fermer, les dockers à Dunkerque.
On est en quelle année, là?
Ouh là là, chou.
Les années 90.
Ouais. 1890 ou
non, ah,
1990.
Ouais, c'est pour contextualiser.
Non, parce écoutez, que on en a fait plein des manifs, c'est pour
on
ça.
On a fait
donc
beaucoup.
Est...
Hein.
Je dis, j'ai 45 ans et j'ai commencé, j'avais 21 ans.
On a fait toutes les grandes manifs parisiennes aussi, quand tout le monde est monté de la France, c'était des manifs. Je ne sais pas si on verra ça un jour, c'est vrai que c'est... On aimerait bien revoir ça. Parce
en 95,
que...
là, pour les manifs contre la retraite, là, on avait gagné, vous y étiez aussi?
Oui,
ouais.
On était présents.
Ouais. Et à Lille, vous étiez dans les rues de Lille alors, déjà à cette époque?
Ben, Lille, pas dans les années 90,
non.
Honnêtement, non.
Paris.
Non. Paris.
On était plus sur Paris, parce que comme on était toujours avec Salvatore, ben, ils nous emmenaient dans les cars et tout ça.
Il faut savoir qu'à cette époque, on avait régulièrement des cars qui montaient sur Paris.
C'était bien organisé à cette époque-là.
Beaucoup de cars?
Énormément,
énormément. Et ça montait de toute la France. Hein.
Ben, okay. On avait des manifs...
Des cars ou des calèches parce que...
Ah non, des cars.
Des gros cars.
Mais lui, faites le test.
Je peux te dire qu'on circulait même pas dans la manif.
On n'arrivait même pas à circuler dans les manifs.
Ah ouais.
C'était noir de monde à Paris.
C'était super convivial.
Ouais, puis pas d'incident. On n'a jamais... La première incident qu'on a connu à manif, on va te le dire, c'est qu'à partie politique. On a reçu des canettes par des anarches qui nous chaient des canettes.
Ah, tu calmes, mon œuf. Attention aux anarches. Attendez, Pierrette et Virginie.
Non, c'est délicat.
C'est délicat,
c'est délicat.
C'est délicat, les anarches, ici.
Ah non, mais bon, on n'a pas pris ombrage. On n'a pas pris ombrage.
On va vous remercier. Merci beaucoup.
Est-ce que c'était des canettes de 8-6?
Entendu.
Non, c'est des canettes
d'antenne. Il va falloir qu'on se quitte. Je suis désolé.
On passe au rouge, c'est terminé parce que rien n'a encore changé. Salut, Milky. en parlant d'Anard, il est là.
Voilà.
Et puis à
Facebook.
Et puis à 21h, vous retrouverez Start. Et puis à 22h, Hervé Delisle avec Kaleidoscope Culture Plus. On se retrouve lundi prochain, 19h, 20h, pour On Passe au Rouge. Et puis sinon, on se retrouve jeudi dans la manif, bien sûr. Jeudi, c'est à quelle heure, tu dis?
Jeudi, 14h30.
14h30, porte de Paris.
Et oui, on y sera. Tous ceux qui sont autour de cette table, ils seront bien sûr. Même Milky, qui sera toi aussi là jeudi.
Dire quoi ça, même Milky?
On te connaît, Milky. Parce que pour qu'on t'entende.
Voilà,
bien sûr, t'es toujours là, toute personne n'est trop fière.
Oula, avec sa moumoute.
Merci Pierre.
Il faut que les gens maintenant arrêtent de se plaindre des grèves et qu'ils se mettent dans la rue avec les gens, et en 3 jours c'est plié.